Aujourd'hui, Marie-Pierre, et pour quelques instants, on oublie les violences et les fracas du monde. Vous nous parlez de beauté, de lumière, de paix et de prière.
Et oui, Jonathan, écoutez bien. On baigne dans la beauté sublime de la nature. La péninsule, entourée par la mer Égée, offre des paysages immenses. On y perçoit une plénitude cosmique. C'est un lieu qui résume l'essentiel de la vie. Voilà comment Michel Savrou, le doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, évoque dans la Croix de ce mercredi ce haut lieu millénaire de prière et de pèlerinage, ce poumon rayonnant de la spiritualité orthodoxe, le mont Athos. Et c'est là, au cœur de ce monastère, loin des traumatismes de la guerre, que des soldats ukrainiens tentent de guérir et de retrouver leur place parmi les hommes. Debout sur le quai, face au bateau rapide qui s'apprête à l'emporter vers le mont Athos, Vassili raconte ses 2 années de détention aux mains de l'armée russe. 2 ans de torture et de survie. Libéré lors d'un échange de prisonniers, il n'en est jamais vraiment revenu. Pour lui, tout s'est écroulé et il ne reste plus qu'une douleur intérieure qui le ronge. « Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle cesse enfin », confie-t-il. « C'est pour ça que j'ai demandé à venir ici ».
Et tout comme Vassili, ils sont 25 soldats ukrainiens à gravir les pentes du mont Athos.
Blessés au combat, anciens prisonniers ou militaires brisés par la douleur et l'épuisement, tous ont été choisis parce qu'ils ont encore et encore tenté sans succès de se relever. Lancé en novembre 2024 par les autorités religieuses ukrainiennes, ce pèlerinage offre aux soldats quelques jours de répit pour une possible guérison. Je vous invite vivement à lire ce reportage. Vous y rencontrerez notamment, entre autres, un jeune moine à la longue barbe noire et aux cheveux tirés en queue de cheval. Dans la pénombre d'une église, il murmure une bénédiction. Il regarde ces jeunes soldats avec tendresse. Les bougies vacillent et projettent sur les icônes et sur les visages graves des soldats une lueur fragile, comme une promesse de réconfort. Le père Théophilos entonne une prière. Ils viennent chercher ici un peu de consolation. Leur détresse est telle que j'en ai les larmes aux yeux, confie-t-il, en les serrant contre lui, tour à tour. Assis devant la maison des Ukrainiens, Vassili sent alors son âme plus légère. Il y a une telle atmosphère ici, je me sens bien. Pour Mikhaïl Pasirsky, le prêtre ukrainien qui les accompagne, cette ancienne auberge édifiée au Xe siècle par des moines venus d'Ukraine, représente bien plus qu'un refuge. C'est une affirmation d'identité, un acte de résistance silencieuse. Alors que le monastère russe de Saint-Pantaléon, l'un des plus importants de la péninsule, rattaché au patriarcat de Moscou, a choisi de fermer ses portes aux pèlerins ukrainiens. Dans cette quiétude retrouvée, loin du fracas des armes, chacun s'accorde un instant de répit. Mais déjà la fin de la parenthèse spirituelle approche. Plusieurs de ces soldats devraient bientôt reprendre le chemin du front. Repartiront-ils plus apaisés? Probablement, mais pour combien de temps?
Ces monastères, des havres de paix à préserver.
À quoi servent les religieux? Une question un peu beaucoup provocante, posée ce mardi par notre confrère Loubesmont de Senneville dans son édito de la Croix. Alors qu'à Lourdes se tenait cette semaine la conférence des religieux et religieuses de France, la Croix de ce mardi a voulu faire le point sur la présence de ces hommes et de ces femmes dans notre pays et sur les nombreux défis qui les attendent. Vous en lirez toutes les analyses dans la Croix, mais revenons à l'édito de Loubesmont de Senneville. Il va directement au cœur même de la question. Je le cite. Dans le silence, les religieux et les religieuses sont les témoins qu'une vie intérieure est toujours possible en 2025. Comme le sont aussi, à leur manière, ceux qui ont choisi de donner leur vie à Dieu en étant plus directement au service de leurs prochains, en les servant dans des écoles, des hôpitaux ou encore dans des entreprises.
Comme le font des membres du Secours catholique et d'autres associations.
Tout comme le font les membres de l'association Fratello. À l'occasion du Jubilé des pauvres et de la 9e Journée mondiale des pauvres, ils ont accompagné cette semaine à Rome plus de 1500 personnes en situation de précarité. Famille chrétienne a suivi tous ces pèlerins, accompagnateurs et nécessiteux dans leur périple. Un périple un peu fou qui les a amenés à rencontrer Léon XIV au Vatican. Tout comme à Lyon, où les bonnes initiatives ne manquent pas quand il s'agit d'aider son prochain. Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Saint-Irénée a lancé la soupe détoquée. Alors, je m'explique. Pendant 40 jours, 40 grands chefs se sont engagés à fournir chaque soir de la semaine 40 litres de soupe à des associations d'aide aux plus démunis. Lyon n'est-elle pas la capitale de la gastronomie, mais aussi de la générosité, lance le chef Christophe Marguin, président des Toques Blanches Lyonnaises. C'était un saint laïc, mais tout à fait républicain. Un mélange de Saint-Vincent de Paul et de Saint-François d'Assise. Le 16 novembre dernier, disparaissait Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU Social. Les hebdomadaires Réforme et la Vie rendent hommage à celui qui, au seuil de l'éternité, avait retrouvé la foi, sans pour autant perdre son esprit de révolte.
Et enfin, on parle de l'IA et des jeunes.
Et de leur liaison dangereuse, comme vous le découvrirez dans le grand format de Famille Chrétienne. La Vie, pour sa part, de YouTube à TikTok, fait un focus sur les dangers de l'empire grandissant des influenceurs. Et puis, qu'aurait fait Victor Hugo de ChatGPT ? Lui qui voulait être Chateaubriand ou rien, s'interroge avec humour et toujours dans le magazine La Vie, Adeline et Alexis Boisard, chroniqueurs dans la rubrique Éducation. Là encore, je résume. Nos jeunes ne sont pas tous des Victor Hugo, mais tous ont reçu des talents et méritent d'être stimulés à entraîner leur cerveau. La question n'est pas tant de les guider dans l'utilisation de l'IA que de nous assurer qu'ils continuent à se fier d'abord à leur propre capacité de synthèse, de mémorisation et de créativité. Et quitte à être les seuls de leur classe à avoir cette prudence, ils pourraient ainsi citer fièrement Hugo, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.